Slate Podcast.
Bonjour, ce n'est plus Kétéran, mais Axel de l'équipe Audible. Chez Audible, nous avons toujours à cœur de soutenir la créativité des programmes de podcast, comme pour Transfert, qui depuis 3 ans déjà, dévoile une partie de notre intimité. Audible, appli de divertissement audio, vous souhaite une bonne écoute.
Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment que l'ensemble de votre vie répond, par période, à des thématiques? Par exemple, à l'époque où j'ai créé Transfert, en juin 2016, j'avais l'impression que tout, dans ma vie, était histoire. Que j'avais toujours été obsédée par les histoires. J'en écrivais petite, j'en avais imaginé, il y avait les histoires de famille, mon obsession était la narration, et tout soudain faisait sens avec la création de Transfert entre ma vie intime et professionnelle. Et puis, j'ai eu le sentiment que toute ma vie était travaillée plus globalement par un questionnement sur la parole. Tout ce qui m'interrogeait dans ma vie amoureuse, familiale, ma vie amicale, était lié à la parole, à ce qui était dit ou à ce qui était tu. Et c'est le moment où j'ai cofondé Louis Media, le studio de podcast qui produit Transfert pour Slate, et où ma vie professionnelle n'est devenue qu'un grand questionnement sur les podcasts, donc la parole vivante. C'est à ça que je pense quand j'entends dire que tout est lié, quand les gens disent qu'il n'y a pas de hasard. Ça n'est pas du tout mystique, pas du tout une histoire de lune, de soleil, d'astrologie, c'est une histoire d'obsession, de la manière dont nos questionnements intimes rejaillissent sur tout, d'un coup, tout en même temps, sur le travail et sur le personnel. Je suis Charlotte Pudlowski et vous écoutez Transfert. Aujourd'hui, au micro de Jeanne-Marie Desnos, l'histoire de Pauline.
Quand j'étais petite, je voulais être coiffeuse. Comme ma mère, c'était son rêve. Et puis, j'étais bonne élève, donc on m'a dit « Ah non, Pauline, t'es bonne élève, tu fais pas coiffeuse. » Donc, j'ai suivi le chemin. Je m'en rappelle en terminale, donc j'étais en bac ES, et j'avais beaucoup d'estime pour mon prof principal, mon prof d'éco. Et en réunion parents-prof, il dit à ma mère « Pauline, c'est vraiment une bonne élève, il faut qu'elle fasse de grandes études. » Et c'était aussi le souhait de mes parents. Mon père voulait que je sois avocate. Et moi, déjà, à cette époque, j'aimais pas trop ça, l'école, en fait. J'aimais pas trop réviser les examens, ça me stressait beaucoup. Et puis, je disais que moi, je voulais faire une fac de psy. On m'a dit, non, il n'y a pas de débouché là-dedans. Ou alors, j'ai voulu faire assistante sociale. On m'a dit, ah, c'est bon, tu vas ramener le problème des autres à la maison. T'es trop empathique, t'es trop émotive, ça va pas aller. Après, je disais, ah, j'ai un côté très créatif quand même, j'aimerais bien. Je me verrais bien dans la pub pour créer des punchlines, des logos. Et donc, j'avais trouvé un BTS pour ça. Et mon prof m'a dit, non, Pauline, tu fais pas un BTS, tu vas en prépa. Et donc, j'ai suivi en fait. Et je me suis retrouvée en prépa sans comprendre, en droit, à une escachon. Et puis, en fait, pour moi, le travail, c'était un peu. Une des choses à réaliser dans sa vie qui correspondait à la réussite. Un peu la checklist de la vie. Avoir son bac, faire des études, avoir le master 2, trouver un CDI, acheter un appartement, me marier, avoir des enfants. J'avais 23 ans quand on m'a proposé mon premier poste pour une grosse entreprise que j'aimais beaucoup, qui était un domaine qui me plaisait. Un poste de juriste en droit social, donc exactement ce dont je rêvais à l'époque. J'étais tellement fière. Ma famille était fière, mes amis aussi. J'ai commencé le 1er septembre 2014. Et il m'a fallu très peu de temps pour me sentir désabusée. Je crois que c'est vraiment le mot. Je me rappelle, j'avais 15 jours de période d'essai et mes deux collègues juristes on dit, Pauline, tu sais, si tu veux partir, c'est OK, t'es encore en période d'essai parce qu'on sent bien que ça va pas, en fait. Et je me suis sentie coupable, presque. J'avais du mal à trouver ma place, que je faisais beaucoup d'heures, que je comprenais pas le sens. Je me sentais pressée comme un citron. On attendait des choses de moi que je comprenais pas parfois. C'était beaucoup de travail à la chaîne, en fait. Où l'humain, finalement, n'existait pas vraiment et ce qui était très loin de mes convictions, ce que j'avais choisi de faire du droit social en ressources humaines pour me rapprocher de l'humain le plus possible. J'ai tenu, en fait. J'ai tenu pendant 4 ans. Puisque le discours qu'on me servait autour de moi, c'était en fait, c'est normal, Pauline, c'est la vie. C'est normal d'en chier. Bienvenue. T'as pas le choix, c'est ça, en fait, d'être adulte. Donc, je suis rentrée dans le moule, tant bien que mal. Finalement, la petite voix au fond de moi, elle savait. Elle savait que elle avait pas envie d'être là. Trois ans plus tard, au sein de cette entreprise, on me fait une super promotion. On me propose d'être responsable adjointe du département. J'avais à peine 26 ans. Super opportunité. Et quelle fierté. Je gagne bien ma vie, ce qui me permet de partir en voyage. Cet été-là, je pars avec une de mes meilleures amies à Bali. 15 jours coupés de mon quotidien, de cette pression, des mails. Je lis un livre qui me bouleverse et qui me fait prendre conscience de beaucoup de choses en fait, qui ne me conviennent pas dans mon quotidien. Je réalise que je n'ai pas envie de me lever le matin pour aller au travail. Et à 26 ans, je me dis qu'il y a peut-être un problème. Je me mets à pleurer, je ne veux pas rentrer. L'idée de revenir dans mon quotidien, de recommencer mes journées de travail dans un bureau enfermé entre 10, 12, 13, 14 heures par jour, ça m'angoisse. Je me sens prise au piège. Mais bon, la vie fait que j'ai un billet retour et des obligations. Donc je rentre de vacances. Et puis quelques semaines plus tard, ma boss, qui est une amie à l'époque aussi, elle part en arrêt maladie pendant des semaines. Et donc là, le rythme s'accélère et c'est de pire en pire parce que j'ai eu cette prise de conscience à Bali et je suis en pleine négociation d'accord sur la qualité de vie au travail, sur la déconnexion pendant le temps personnel pour trouver un équilibre vie pro, vie perso. Mais ça n'a pas de sens, en fait. Parce qu'à aucun moment, je contribue véritablement à améliorer les conditions de travail des salariés. On essaie juste de se limiter à ce que demande la loi et tant que les peines ne sont pas trop importantes, on les contourne. On est toujours sur le fil. Et pendant que je travaille sur tout ça, moi, en fait, je reste jusqu'à 1h du mat au siège, un vendredi soir. Et ça ne dérange personne. Ma DRH, je le sais. À aucun moment, elle me dit de rentrer chez moi. Par contre, je vais avoir des réflexions si un soir, je pars à 19h. En me disant, hey, Pauline, les horaires de fonctionnaire, ça va? L'hypocrisie de la situation. La gestion du personnel d'entreprise, c'est très particulier. Il y a souvent des petites manipulations, des arrangements. Quand on veut se séparer d'un salarié, il arrivait que on lui fasse croire qu'on avait besoin de lui dans une autre ville à l'autre bout de la France, qu'il était muté. Ça fait partie de ses obligations liées à son contrat de travail. Et s'il refusait cette mutation, je devais le licencier. Je pouvais rien faire si ce n'est que moi aussi être sur le fil entre ce qu'on attendait de moi de par ma fonction et qui j'étais. Mais j'étais limitée. Une fois de plus, j'étais piégée. Et donc pendant cette période-là, mon DG me dit qu'il est fier de moi. Qu'il est fier de l'équipe, qu'on fait du super travail. Et je suis validée sur ma mission de responsable adjointe. Plutôt que prévu. C'est une belle marque de reconnaissance. En parallèle de tout ça, à cette époque, je commence à être dans une quête de vérité très profonde sur beaucoup de domaines de ma vie. Je raconte à une de mes amies une particularité dans mon histoire, qui est celle d'avoir été conçue par don de sperme. C'est-à-dire que mon papa est stérile. Donc c'est ma mère qui me l'a appris à l'âge de mes 18 ans, alors que mes parents étaient en plein divorce. J'étais en pleine conduite accompagnée pour me rendre à mon cours de danse et on s'était disputé avec mon père. Et là, elle me jette brutalement. De toute façon, ton père, c'est pas ton père. J'ai un premier sentiment qui est un énorme soulagement, puisque depuis toute petite, j'étais persuadée d'avoir été adoptée ou échangée à naissance, parce que physiquement, je ne ressemblais pas beaucoup aux membres de ma famille. Et puis, quand ma mère m'explique que j'ai été conçue donc, grâce à une PMA, procréation médicalement assistée, grâce à un donneur de sperme, et que la première question que je pose, qui est de savoir qui est ce donneur de sperme, et qu'elle me répond, les yeux grands ouverts, ébahis, mais Pauline, tu comprends pas, tu sauras jamais qui est ce donneur. Il est anonyme. Donc là, j'ai très vite un sentiment de colère et d'injustice. Et ajouté à ce secret révélé, ma mère me demande de garder le secret sur le secret, c'est-à-dire qu'elle ne souhaite pas que je dise à mon père qu'elle me l'a dit, puisque à l'époque, il s'était promis de ne pas me le dire, ni à moi, ni à mon petit frère qui a 10 ans de moins et qui est dans la même situation. C'est aussi à l'époque un conseil que donnaient les médecins aux parents, de ne pas le dire à l'enfant que ça permettrait de conserver leur bien-être. Et donc voilà, 9 ans se sont écoulés à peu près depuis cette annonce, et en parlant à cette amie, elle réagit avec surprise, non pas sur le fait que je sois conçue, pardon, mais sur le fait que mon père ne sache toujours pas que je sais. Et c'est vrai que là, j'ai une nouvelle prise de conscience et je me dis, mais oui, combien d'années je vais encore garder ce secret, en fait? Parce que je sens bien que notre relation, elle est abîmée par ces non-dits, par ce tabou. J'ai souvent l'impression que mon père me ment. Parce qu'à cette époque-là, mon petit frère est en pleine croissance, il va avoir des mots comme quoi, « Ah, bah, toi, mon fils, tu vas être grand comme papa. » ou des liens biologiques, alors qu'il n'y a pas de lien biologique. Et donc, je prends la décision de le dire à mon père. Donc, je préviens ma mère. Elle est pétrifiée. Moi, je suis sûre de moi. Donc, je donne rendez-vous à mon père. Je rentre un week-end à Auxerre, en Bourgogne. On se voit dans un café. Je m'arrange pour que mon frère ne soit pas là. À peine le café commandé, mon père s'assoit à côté de moi et je lui dis... Écoute, papa, j'ai quelque chose de très important à te dire. Et je veux tout d'abord que tu saches que je t'aime et que à ça, rien ne changera notre relation. Tu seras toujours mon papa. Et voilà, je sais que j'ai été conçue par don de sperme. Et là, il s'est mis à pleurer. Et j'ai été à nouveau soulagée, en fait, parce que j'avais tellement peur qu'il soit dans le déni et qu'il me dise que c'est pas vrai, que ma mère m'ait menti. Mais non. Il accueille la nouvelle et il me remercie très rapidement dans la conversation parce que ça le soulage aussi. Et c'est génial, en fait, ce qu'il me raconte sa version de l'histoire, comment il l'a vécu, à quel point ça avait été douloureux pour lui à une vingtaine d'années d'apprendre qu'il était stérile et qu'il pourrait jamais donner d'enfant à la femme qu'il aime. Il m'explique qu'il s'est pas senti homme à ce moment-là, qu'il a l'impression qu'il serait jamais un homme à 100%. Ça a été dur d'entendre ça. Il me dit qu'il m'aime aussi. C'est beau parce que je crois qu'on ne s'était jamais dit en face à face. Il me dit qu'il est fier de moi, que je serai toujours sa fille, moi qui serai toujours mon père. Et cette conversation, elle a vraiment été salvatrice. Et pour moi, pour m'approprier encore plus mon histoire et dans notre lien. Parce que notre relation, elle est beaucoup plus authentique, beaucoup plus saine depuis qu'on a eu cette conversation. Donc fin 2017, ma boss revient de son arrêt maladie. Et puis on a toujours ce lien d'amitié, où on a plein de sujets de conversation très riches. Et elle me propose de participer à un stage de développement personnel. J'en avais jamais entendu parler. Et je me laisse emporter. Je trouve l'idée séduisante. Ouais, elle me dit que ça va être bénéfique à plein de niveaux, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Donc j'y vais, les yeux fermés, je lui fais confiance. Et à un moment donné, pendant ce stage, j'ai cette même prise de conscience qui revient, que j'ai eue à Bali, qui est ce manque de sens dans ma vie par rapport au travail. Je me rends compte que je passe ma vie au travail, que je n'ai plus de temps personnel, en fait. J'arrive le matin au bureau à 8h, je repars en moyenne vers 20h30, 21h, et quand je sors du bureau, je vais en terrasse, je suis avec mes collègues et j'irai jusqu'à minuit. Et donc, je comprends que je maintiens un système qui est dysfonctionnant. Finalement, c'est comme si je colmatais un grand tuyau qui est percé de tous les côtés. Et au moment où on me suggère cette image, ça fait sens en moi, ça fait tellement écho que je me mets à pleurer. Je me sens blessée, en fait. Et il y a une part de moi qui se demande comment j'ai pu me laisser emporter dans cette tempête. Et ce stage en particulier va être d'autant plus bouleversant puisque quelques jours avant de m'y rendre, j'ai découvert dans un article de presse qu'un homme qui a été conçu par don de sperme comme moi avait retrouvé son donneur grâce à un test ADN et qui faisait partie de l'association PM Anonyme. Et donc j'en parle. Et là, je me rends compte que j'ai viscéralement besoin de connaître qui est mon donneur, que ça fait partie de mon identité. Et c'est une fois de plus une quête de vérité, de savoir qui je suis, pour mieux savoir où je vais finalement. Ça remet en quelque sorte tout en question. En fait, il y a 50% de mon patrimoine génétique que je ne m'explique pas. Et c'est un homme dans la nature qui est peut-être encore vivant, qui pourrait répondre à certaines de mes questions. Qui pourrait me dire pourquoi est-ce qu'il a donné, qui il est, à quoi il ressemblait, quel est son métier, quelles sont ses passions, de quoi j'ai hérité de lui, qui pourrait me permettre d'identifier la frontière entre l'inné et l'acquis. Et avant ça, finalement, je ne m'étais jamais vraiment posé la question avec autant de profondeur, puisque quand ma mère m'a appris la nouvelle il y a 9 ans, elle m'avait dit « tu ne pourras jamais savoir qui est le donneur ». Donc j'ai complètement éludé cette question et je ne m'étais pas lancée dans une quête approfondie à la recherche de ce donneur. Mais c'est à partir du moment où j'ai compris que je pouvais moi aussi savoir que là, j'avais ouvert la boîte de Pandore et cette quête, elle ne me quitte plus depuis bientôt 2 ans. À mon retour de stage dans l'entreprise, je me sens à la fois de plus en plus mal dans ce poste et en même temps émerveillée par les autres possibilités qui peuvent s'offrir à moi. Et en même temps, j'arrive pas à prendre une décision parce que j'ai cette pression sociale où je me dis quand même, Pauline, t'es jeune, t'as un super poste à responsabilité, tu gagnes hyper bien ta vie. T'es en train d'acheter un appartement. T'as réussi, en fait, de quoi tu te plains? T'es en train de péter un câble pour rien. Ça va passer, accroche-toi. Puis, bah, tiens-toi dans le rang comme tout le monde, en fait. Et en même temps, j'ai certaines de mes amies qui me connaissent et qui voient bien que je suis mal, qui me disent « Mais Pauline, barre-toi. T'es en train de souffrir. De quoi t'as peur ?» Ben, j'ai peur de pas savoir ce que je vais faire. J'ai peur d'être au chômage. J'ai peur de pas avoir assez d'argent pour vivre, j'ai peur de perdre une place sociale, en fait. Et ça demande tellement de courage. Donc je me sens pas prête tout de suite à fermer cette porte. Quelques semaines plus tard, je vais bientôt fêter mes 27 ans. Et la veille, je prends la décision d'aller sur le site de l'association PM Anonyme. Donc j'écris un mail à l'accueil, très bref, en indiquant que je suis aussi conçue par don de sperme et que je cherche à rencontrer des personnes comme moi. Et dès le lendemain, j'ai une réponse par mail, hyper détaillée, avec plein d'informations sur les tests ADN. Et tout d'un coup, je me sens beaucoup moins seule. Le président de l'association m'appelle et on a une longue conversation pendant au moins 2 heures. Et là, il va me permettre de mettre des mots sur des sentiments que j'avais depuis des années, mais que j'avais jamais vraiment réalisé, parce qu'en fait, j'étais restée toute seule dans mon coin. J'en avais parlé beaucoup autour de moi, mais pas avec d'autres personnes conçues, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'avais pas réalisé que potentiellement, il y avait 80 000 autres personnes comme moi, en fait. Et là, il m'explique quels sont les profils types des donneurs à l'époque. Il me demande si potentiellement, j'ai déjà eu peur de coucher avec un demi-frère. Et là, je réalise que non. C'est chouette cette rencontre parce que je sens une belle solidarité, un autre sentiment d'appartenance. Et je vais très vite prendre conscience que j'ai envie de contribuer de manière concrète dans cette association. Le week-end qui suit mon anniversaire, je le passe avec ma meilleure amie de l'époque et je prends la décision de m'engager avec moi-même à quitter l'entreprise avant le 31 juillet de la même année. Et quelques mois plus tard, je vais effectivement donner ma démission. Et ça vient en même temps avec mon engagement dans l'association, puisque dès début mai, je participe à l'Assemblée Générale et je prends les fonctions d'attachée de presse. Et je me rends bien compte que d'avoir découvert cette association, ça me permet de retrouver du sens à ma vie, de réaliser qu'il y a des choses tellement plus importantes que mon travail, que négocier des accords, licencier des personnes ou rédiger des sanctions disciplinaires. Donc j'ai envie de donner plus de temps à l'association et de manière plus globale de retrouver du temps pour ma vie personnelle. Un matin, je me rends au travail et devant les portes du métro, je tombe nez à nez avec le directeur général de l'entreprise. Il me parlait plus trop depuis que j'avais donné ma démission. Donc je le prends comme un signe du destin. Et je lui parle. Je lui dis, bah, alors, vous avez dû apprendre que j'avais démissionné. Je dis, oui, bah, je te souhaite le meilleur. Hein. Belle continuation. Je dis, bah, oui, merci. Vous savez pourquoi ? Est-ce que la DRH vous a expliqué ? Tu dis, bah, oui, c'est que tu as des trucs perso à vivre, tu veux voyager. Alors je lui dis, c'est pas exactement ça. En fait, il y a des choses qui vont pas dans l'entreprise. Et moi, je suis plus d'accord, je suis plus d'accord avec tout ça. Il y a trop de dysfonctionnement. Le système va mal. Il y a eu plus de 20 départs en 4 ans. Il y a vraiment un problème et j'ai beau alerter hein, et je ne reçois pas d'aide. Et là, ça fait des mois que je suis seule sur le département et qu'il manque encore une juriste, qu'il n'y a pas d'assistante, etc. Et là, il se met en colère. Il me dit, mais comment tu oses remettre en question mon entreprise ? C'est moi que tu vises directement, alors que c'est ta boss qui faisait n'importe quoi et qui ne savait pas garder une équipe. Donc la conversation s'achève une fois qu'on arrive au bureau. Et cette journée-là, j'avais une grosse réunion toute la journée. Et avant la fin de la matinée, la DRH me fait sortir de réunion en m'expliquant que l'après-midi, je ne reprends pas, que je suis attendue par le directeur général et elle. Donc, je ne retourne pas en réunion. Impossible d'avaler quoi que ce soit à la pause déjeuner. Je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée. Donc, je suis dans un état de stress indescriptible. Et donc, le directeur général et la DRH m'attendent, demandent de m'asseoir en face d'eux. La DRH me regarde à peine alors qu'on... Pour moi, on avait réussi à créer une relation de confiance. Quand je lui avais donné ma démission, elle m'avait dit « Non, fais pas ça, tu fais partie de la famille. On ne peut pas se passer de toi. » Et là, pendant les quelques minutes où le directeur général va m'humilier, me rabaisser, m'enfoncer sous terre, elle dira rien, aucun mot pour me soutenir. Lui fera tout pour que je me sente moins que rien. Il me dit qu'il regrette de m'avoir promue, qu'il n'aurait jamais dû me faire confiance, que j'étais pas au niveau. Alors que il m'a dit le contraire. Il m'a dit de bien faire attention à ce que je pourrais dire sur l'entreprise après mon départ, parce qu'il savait tout et qu'il connaissait 300 dirigeants en France des plus grandes entreprises et qu'il saurait faire parler de moi. Je me sens menacée, je me sens anéantie et tellement seule, alors que ça fait 4 ans que je leur ai donné de mon temps de vie que je ne pourrais jamais récupérer. Donc il me dit en final, tu pars quand tu veux de l'entreprise. On n'a pas besoin de toi, on trouvera facilement à te remplacer. Donc tu pars quand tu veux. Donc je sors du bureau, je serre les dents, j'ai pas pleuré, j'ai rien pu dire. Je retourne à mon bureau. Là, il y avait une collègue à moi, une avocate qui venait en soutien, qui savait tout ce qui se passait. Elle ne pouvait rien faire non plus. On était tous impuissants, en fait, face à cette dictature, à cette tyrannie. Elle me dit, Pauline, écoute, c'est très simple. Tu reviens pas. Tu fais tes affaires, tu dis au revoir à l'équipe et tu te protèges. C'est inacceptable ce qui vient de se passer et la seule option que tu as, c'est de partir. Tu le prends au pied de la lettre, demain tu feras un mail, tu t'en vas. Donc je vais dire au revoir à mon équipe. Elles comprennent ce qui se passe. Elles savent pas tout, mais elles sont intelligentes. Donc, je prends mes affaires. Et puis, je quitte le bureau et j'y remettrai jamais les pieds. Je crois que le plus dur pour moi, ça aurait été de ne pas dire au revoir à toutes les personnes avec qui je travaillais depuis 4 ans. Donc finalement, ils me privent de pouvoir partir correctement, la tête haute. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, d'avoir honte, alors que c'est tout le contraire. C'est eux qui devraient avoir honte de traiter les gens comme ça. On est au mois de juin 2018 et ça fait plusieurs semaines que je prépare mes parents psychologiquement à se retrouver tous les deux dans la même pièce, ce qui n'est pas arrivé depuis 10 ans, depuis le divorce, pour annoncer à mon petit frère qu'il a aussi été conçu par don de sperme. Je me rappelle ce week-end-là, c'est celui de la fête des pères. Donc c'est très symbolique. Donc avec ma mère, on va chercher mon petit frère à la fin de son stage. Et je prétexte d'aller déposer le cadeau à mon père pour la fête des pères le lendemain. Donc on se rend tous les trois à la maison de mon père. Et voit ma mère descendre de la voiture. Et il dit « Mais attends, maman, pourquoi tu descends de la voiture ?» Et bon, je le rassure, je dis « T'inquiète pas, ça va bien se passer, fais-moi confiance. » Je joue clairement le rôle de la médiatrice. Déjà, avant qu'on arrive, j'avais préparé ma mère et mon père. Bon, alors surtout, tu dis pas ces mots-là, vous le dites comme ça, je veux que ça se passe bien pour mon frère. Donc bref, on est devant la maison, mon père nous ouvre. Hyper content, un peu stressé, je le vois. Il avait préparé dans le salon des petits thés, gâteaux. Donc on s'assied tous les trois, ma mère, mon frère et moi, et mon père en face de nous. Et mon père commence à raconter l'histoire de la rencontre avec ma mère. Ça part de loin, comment ils se sont mariés, à quel âge, qu'ils s'aimaient beaucoup, qu'ils avaient des problèmes pour m'avoir. Et il tourne un peu autour du pot et je vois au fur et à mesure mon frère à côté de moi qui serre un coussin dans ses bras, qui comprend rien. Et en fait, au bout d'un moment, je regarde mon père. Je dis, papa, dis concrètement en fait les choses. Explique ce qui s'est passé. Donc là, mon père finit par dire avec ses mots, et qui étaient tellement pleins de justesse et d'amour, il a vraiment parlé avec les mots du cœur en disant « Bah voilà, je suis stérile, et du coup, avec ta maman, on a eu recours à un donneur de sperme pour ta sœur et toi. » Et là, mon frère, il reste un peu impassible. Du coup, mon père lui demande « Est-ce que ça change quelque chose ?» C'était sa plus grande peur. Et mon frère... Je dis, oh non, ça change rien. C'est cool, quoi. Mon père me demande s'il s'en doutait. Mon frère dit, bon, non, je m'en doutais pas, puisqu'on se ressemble un peu avec mon frère. Donc, à partir du moment où il avait moi comme référence, en quelque sorte, il s'était jamais posé la question, petit, contrairement à moi. Et puis, on lui a demandé s'il avait des questions. Et une de ses premières questions, ça a été de savoir, en me disant, bah, Popo, est-ce qu'on a le même donneur, toi et moi ? Là, avec mes parents, on se regarde et... En fait, on ne sait pas, on n'a pas la réponse. Mes parents expliquent qu'à l'époque, quand ils y sont retournés 10 ans plus tard à l'hôpital pour lui, déjà, ils n'avaient même pas pensé, en fait, à demander le même donneur, parce que eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était avoir un enfant. Et ils pensent que c'est peu probable. Et donc là, moi, je peux expliquer à mon frère et à mes parents toutes les informations que j'ai accumulées depuis... depuis mon rapprochement avec l'association. Et je lui explique que la seule solution aujourd'hui pour avoir l'information, c'était de faire un test ADN. Que seul un test ADN pourrait nous dire si on a eu le même donneur ou pas. Alors, un test ADN, c'est hyper simple. Ça se commande sur Internet. Soit on crache dedans, soit c'est un petit coton-tige qu'on met à l'intérieur de la joue. Et on envoie le tout dans un laboratoire à l'étranger, la plupart du temps aux États-Unis. Et en fait, avec ce kit de test ADN, il y a un numéro. Ce numéro, on l'enregistre sur le site du laboratoire. Et ça permet d'accéder à un espace membre. C'est un peu comme un réseau social, en fait. C'est hyper ludique. Et une fois que vous avez les résultats du test, il y a deux informations hyper importantes. La première information, c'est les origines ethniques. Donc, il y a une carte du monde qui s'affiche. Et là, apparaît un pourcentage d'appartenance à certaines ethnies. Et la deuxième information hyper importante et qui est vraiment clé pour les personnes conçues par don, comme moi, c'est les correspondances ADN. En fait, toutes les personnes qui ont fait ce même test ADN, leurs segments d'ADN vont être comparés au mien pour savoir quel lien biologique nous pouvons partager. Donc, en fonction d'un certain pourcentage, ça correspond à une certaine filiation biologique possible. Donc, pour mon frère, c'est un peu de la science-fiction à ce moment-là. Je lui explique que c'est bien réel, que moi, j'en ai déjà commandé un, que je l'ai fait quelques jours plus tôt et que j'attends les résultats. Début juillet 2018, on me propose très rapidement un poste de responsable du dialogue social et de la communication dans une autre entreprise. J'y réfléchis, j'ai quelques doutes et je me laisse tenter. Je me dis, allez, c'est notre structure, ça peut être différent. Le directeur général, je m'étais renseignée, ça avait l'air vraiment d'être une belle personne, ouverte d'esprit, avec une vraie importance sur l'humain. Je me suis dit, ça peut être différent. Donc, je me laisse tenter et je rentre dans l'aventure. En parallèle de mon entrée en fonction dans cette nouvelle entreprise, je m'investis de plus en plus dans l'association avec mes fonctions d'attaché de presse, puisque c'est au cœur de l'actualité, la révision de la loi bioéthique pour l'accès aux origines des personnes conçues par don. Et je vois que j'ai envie. J'aime vraiment ça. Être en contact avec les journalistes, sensibiliser sur le sujet, partager mon histoire, accueillir de nouvelles personnes au sein de l'association. Et donc, je demande plus en plus de temps pour participer à des réunions, à l'Assemblée nationale. Je rencontre des députés, sénateurs. Et très vite me vient l'envie, au sein de l'association, d'accompagner à un niveau humain où je vais organiser des cercles de parole. C'est-à-dire que je propose à des personnes de l'association, que ce soit des parents, des donneurs ou des personnes conçues par don, de se retrouver pour libérer la parole. J'ai envie de pouvoir transmettre ce que moi j'ai vécu au sein de ma famille, de leur prouver en fait en quelque sorte que c'est libérateur et ça peut faire vraiment beaucoup de bien de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et que la peur finalement c'est un frein aux relations. Je me rends très vite compte que le poste qu'on m'a proposé, c'est pas celui que j'exerce. C'est laborieux. Il y a aussi des jeux de pouvoir, des jeux d'ego, d'hypocrisie. On me dit de faire violer, je fais violer. Le lendemain, on me met en porte-à-faux devant les élus du personnel en me disant « Mais Pauline, t'as fait violer. Je t'avais dit de faire jaune. Pourquoi t'as fait violer ?» Ça m'insupporte. Je me sens trahie. Donc au quotidien, je fais de mon mieux pour répondre à mes valeurs et j'aide au mieux les salariés qui m'entourent au siège. Et je vois très bien que je sors de mes fonctions. Je les accompagne à un niveau humain. Je fais de la médiation entre les managers et leurs équipes. Je me rappelle de cette salariée qui est désemparée, qui vient de perdre sa mère, ses deux sœurs d'un cancer et elle est aussi diagnostiquée d'un cancer du sein. Elle a tellement besoin d'écoute, d'être considérée comme une personne et pas juste un salarié dans une entreprise qui a des objectifs à atteindre. Mais je vois très bien que c'est pas ce qu'on attend de moi. Parce qu'en fait, tous les autres dossiers sur le niveau juridique, ils sont là, il faut les traiter. Et c'est ce qu'on me demande de faire. Et la réflexion va s'accélérer très rapidement puisque je vais négocier une rupture de ma période d'essai. Là, j'ai pris conscience que c'était pas juste l'entreprise et la difficulté. C'est le système, en fait. Donc, je décide de partir. Et ça, ce sera début novembre. Alors que j'étais dans mes derniers jours de travail, courant octobre, je me souviens très bien de cette journée. Mon petit frère m'appelle en pleine journée. Je suis à mon bureau. Et il me dit « Popo, j'ai reçu mes résultats de test ADN. » Ok. Il me propose de faire un FaceTime. Il me dit, vas-y, toi, ouvre-les. Donc, moi, je les ouvre sur l'ordinateur. Et là, je vois les résultats. Et il est écrit demi-frère et sœur. Et là, il me dit, bah, ça veut dire quoi? Je lui dis, bah, ça veut dire qu'on n'a pas eu le même donneur. Donc, on n'a que maman en commun. Et lui, il me dit de manière très, très innocente et vraiment avec ce mot-là, il me dit, mais Popo, de toute façon, on s'en doutait. On n'a pas exactement les mêmes traits de caractère du visage. Voilà, lui, il le prend avec beaucoup de légèreté. Et je crois que c'est surtout moi qui ai besoin d'être rassurée parce que ça me blesse. En me disant, mais qui sont ces laborantins pour me dire que mon frère, c'est que mon demi-frère? Non, c'est mon frère. Et tout de suite, il me le dit, ça change rien. Et c'est vrai, ça change rien dans notre relation. On s'aime tellement, on a grandi ensemble. Je prends juste conscience que quelque part, je crois qu'il y a une partie de moi qui voulait un peu me battre pour nous deux. Et je me disais qu'en cherchant mon donneur, je cherchais aussi le sien et ça le soulageait peut-être de ça. Et puis aujourd'hui, en discutant avec lui, en fait, c'est bien qu'il ait aussi sa part de l'histoire et qu'il prenne son temps aussi et qu'il gère sa quête à son rythme et comme il le souhaite. À cette même période, il se passe vraiment beaucoup de choses. C'est beaucoup d'émotions. Je me souviens, j'étais dans la rue. Je regardais mon téléphone de manière assez automatique. Et je vois un mail d'un homme dont je ne connais pas le nom. Je l'ouvre et là, je vois. Je vous écris puisque j'ai vu votre interview dans un journal. Et j'en suis encore bouleversée puisque vous ressemblez étrangement à ma mère. Et j'ai moi-même été donneur de sperme dans les années 90. Et là, je me revois m'arrêter en plein milieu de la route. Et là, mon compagnon me tire par le bras pour éviter que je me fasse écraser au plein milieu de la route. Donc, je lui explique ce qui se passe et je suis bouleversée. Je me dis que j'ai peut-être retrouvé mon donneur. On commence à s'échanger plusieurs mails. Je crois au bout du deuxième, il m'envoie une photo de sa maman. Elle est magnifique. C'est une photo des studios Harcourt, en noir et blanc. Une belle femme eurasienne, puisque son père, à elle, était indochinois. Et ça faisait sens, puisque depuis toute petite, on me demande quelles sont mes origines. Et on imagine souvent que je puisse avoir des origines asiatiques, parce que j'ai les yeux très en amande, des pommettes hautes, que je bronze facilement. Et donc là, la photo, je la montre à tout le monde, je crois. Les gens de l'association, mes amis, même ma famille. J'en parle très ouvertement avec ma mère et avec mon père, et ils me soutiennent dans la démarche. Et c'est vrai que la plupart des gens me disent « Mais elle te ressemble. Il y a vraiment des chances pour que ce soit lui ton donneur. » Et on va très vite commencer à échanger assez régulièrement. On va s'appeler, on va se raconter un peu nos histoires de vie, les points communs, les moments similaires de nos vies. Enfin, on se trouve plein de ressemblances, en fait. C'est assez perturbant. Et on s'apprécie. Je crois que tous les deux, on a envie d'être liés génétiquement, ce qui est assez drôle. C'est un homme qui a 70 ans et qui a eu un parcours de vie assez fantastique. Donc très vite, il va accepter de faire ce test ADN puisqu'il comprend que c'est la seule option que nous avons pour savoir si c'est lui mon donneur puisque l'hôpital refuse catégoriquement de me donner quelque info que ce soit. Et donc avant Noël, quelques jours avant Noël, il m'appelle et il me dit « Écoute, j'ai reçu les résultats et t'apparaît pas dans mes correspondances ADN. » Donc il me dit « Moi, ça change rien. » Il me dit « Pour toi, ça change quelque chose ?» avec son accent du Sud. Je dis « Bah non, ça change rien. On va pas arrêter de t'appeler parce que t'es pas mon donneur. Tu resteras toujours un peu mon donneur de cœur. C'est comme un ami et c'est pas un ami. Enfin, c'est une belle relation que nous avons aujourd'hui. » Et en même temps, j'étais triste parce que pour moi, ça voulait dire que la quête n'était pas finie. Donc fin 2018, je me retrouve pour la première fois de ma vie inscrite à Pôle emploi. Et je suis à la fois apaisée et un peu inquiète, puisque je vais pouvoir prendre du temps pour moi, me ressourcer, me remettre de toutes ces expériences, de toutes ces émotions, puisque l'année a été quand même très forte sur tous les plans. Et puis, je ne sais pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je ne sais pas ce que je veux faire. je suis certaine d'une seule chose, c'est que je ne veux absolument plus être juriste en droit du travail ou responsable dans une entreprise. Mais pour le reste, c'est l'inconnu total. Et puis, je fais confiance à Pôle emploi. Il me propose un bilan de compétences et je rencontre une super coach qui, dès le début de l'année 2019, aura vu tout le chemin que j'allais emprunter, en fait, finalement, quelques mois plus tard, en me disant, mais Pauline, par rapport à votre questionnaire, votre bilan, moi, je vous vois clairement comme médiatrice dans l'accompagnement humain, le coaching, la formation, la transmission. Vous êtes une bonne communicante, vous savez trouver les mots, vous êtes dans la douceur. Go, vous allez monter votre boîte, ça va rouler pour vous. Sur le coup, début 2019, ça fait 2 mois que j'ai quitté l'entreprise, je ne suis pas du tout là-dedans. Donc, je laisse ça de côté. Et puis, la vie fait que je rencontre plein de différentes personnes sur mon chemin. Je participe à des ateliers, à des conférences, je lis plein de livres différents qui m'ouvrent l'esprit. J'ai l'impression de découvrir tout un univers qui m'était caché depuis des années. Donc, je vais faire plein de missions différentes dans l'événementiel, en tant qu'attachée de presse. Et bien sûr, auprès de l'association, je vais m'investir énormément. J'ai toujours dit que j'avais un peu comme un temps partiel bénévole. Cet été, avec mon compagnon, on décide de fuir Paris et de partir en woofing à Belle-Île-en-Mer. Et je me rappelle particulièrement de cette journée, c'était le 19 juillet. J'ouvre mes applications et je regarde mes résultats. Et là, je vois que j'ai une correspondance ADN avec une femme et qu'on partage 23,7% d'ADN en commun, ce qui est énorme. C'est quasiment le même pourcentage en commun qu'avec mon frère. Donc ça veut dire qu'on est demi-sœurs. Là, je suis pleine de joie et en même temps euphorique. Et je sais, c'est comme si ça m'arrivait à moi, c'est comme si j'avais gagné l'auto, en fait. Puisque depuis des mois, ça arrivait à plein d'autres membres de l'association et pas encore à moi. Donc j'appelle des membres de l'association, des amis, et j'écris un message. Je lui écris, je lui fais part de mon histoire, je lui explique qu'est-ce qui pourrait, quelles hypothèses peuvent expliquer ce lien biologique. Et aujourd'hui, ça va bientôt faire 5 mois que j'ai envoyé ce message et qu'elle n'a pas répondu. Donc je respecte ce silence. Je ne sais pas où elle en est dans son histoire. Je ne sais pas si elle a été conçue par don et qu'elle ne le savait pas avant mon message et qu'on a eu le même donneur. Ou si elle est la fille de mon donneur, la fille légitime. Pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation, mais elle mérite d'exister. Au final, le fait d'avoir une correspondance ADN avec une demi-sœur, ça confirme en moi l'espoir que j'ai et une intime conviction que je retrouverai un jour mon donneur. Un jour, je vais renouer avec mes origines. À la fin de l'été, je réalise que la rentrée arrive et que j'ai envie de reprendre une formation. C'était pas clair encore exactement dans quel domaine. Je vois un peu que je me dirige vers l'accompagnement humain, l'envie d'aider, mais plus de la même manière qu'avant. Donc je fais le bilan, je repense à ma coach, aux conseils que j'ai pu avoir, aux différentes missions que j'ai faites, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu. Et surtout à l'association. Et là, en fait, le déclic est venu très rapidement. C'est une formation dans la médiation que j'avais envie de faire. Donc, j'ai cherché. Et puis, ça s'est fait de manière tellement fluide. Et j'ai commencé, là, le 15 novembre, une formation en gestion des conflits, médiation et négociation. Je suis hyper contente de cette formation. Ça me nourrit énormément. Et c'est comme une évidence. Ça donne du sens, en fait, à ma vie, à mon histoire. Et il y a un vrai besoin, aussi bien en entreprise que chez les particuliers, de rétablir une relation, une communication. Et c'est ça qui manque en entreprise, c'est de reconsidérer à nouveau l'autre. Et pareil pour les familles. Et c'est ce que j'ai vécu au sein de la mienne. C'est que les secrets, les non-dits, la peur de perdre l'autre, la peur de ne pas être aimé, tout ça peut être résolu. Et la fonction de médiatrice, elle est clé, puisque c'est une personne neutre qui peut accompagner chaque partie dans la neutralité, dans l'écoute empathique et bienveillante. Puisque chaque personne a sa propre réalité et sa propre vérité. Le tout est que chacun puisse entendre l'autre. Aujourd'hui, je suis très contente de mon parcours. Je suis très fière, très apaisée de mon histoire, aussi bien dans l'intimité par rapport à la PMA que par rapport à ma vie professionnelle. Tout est lié, en fait. Et il n'y a pas de hasard. Il n'y avait que des rendez-vous.
La demi-sœur de Pauline, dont elle parle à la fin de l'épisode, lui a justement répondu il y a quelques jours. Elle est aussi issue d'un don de sperme, et elle s'en est à 15 jours d'écart. A priori, elle ne pourra malheureusement pas beaucoup l'aider dans sa quête de son donneur, mais ça a rendu Pauline très heureuse. L'épisode que vous venez d'écouter a été réalisé par Jeanne-Marie Desnos, la musique a été composée par David Aknin, il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet, il a été produit sous la direction de Maureen Wilson, responsable éditoriale. Transfert est un podcast de Slate.fr, produit par Louis Media. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à commenter sur Apple Podcasts et à suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, Slate Podcast, Transfert et Louis Media. Et vous pouvez toujours m'écrire sur les réseaux sociaux, à Chapudelot sur Instagram, et envoyer vos histoires à podcast@slate.fr. À très vite.